Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Amis du café, amis du travail bien fait, amis des invités qui ne m'entendent pas. Je sais pas pourquoi ils ne m'entendent pas. Allô les invités, vous m'entendez? Alors moi je t'entends, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors attendez, je vais vous mettre tout de suite à l'antenne. Tac. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Comment on prononce ton nom? Tressanini, tout simplement, c'est ça?
Eh bien, écoute, comme cela vous vient, écoutez, on s'adapte des deux côtés des Alpes, selon la prononciation.
Et voilà, mais de ton côté, on dit comment de ton côté des Alpes? Ça est tellement plus chantant.
On dit à Paris, on dit Tressanini, voilà, c'est très simple.
Impeccable. Et Canette, en Savoie, là, il m'entend ou pas? Il m'entend pas, j'ai l'impression, hein. Jean-Pierre Canet, est-ce que tu pourrais être professionnel 2 secondes, Jean-Pierre Canet? Ben, il ne m'entend pas, hein, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il a un problème de casque. Vous êtes tous les deux réalisateurs, on va attendre qu'ils comprennent qu'il y a un petit souci. j'ai envoyé un texto, mais vous êtes tous les deux auteurs d'un double documentaire en deux parties, l'ultra-droite qui tue, la menace oublié, l'ultra-droite qui tue, la menace oubliée, ça c'est le titre que moi j'ai donné, mais vous c'est ultra-droite terroriste.
Nous, le titre qu'on a choisi, nous David on a misé sur la été, on a appelé cela terrorisme d'ultra-droite.
Exactement. Mais vous l'avez mis au singulier terroriste.
Ah, effectivement, disons qu'en fait on s'est dit que voilà, on allait utiliser le terme générique, si j'ose dire, et que d'une certaine manière, on a bien compris, enfin en tout cas c'est ce qu'on a essayé de mettre en exergue dans ce double documentaire avec Pierre Canet, c'était de démontrer que ce terrorisme d'ultra-droite, d'une certaine manière, il est paradoxalement global et local, et que les deux se parlent, se rejoignent. On est arrivé aujourd'hui dans une situation où tout ce beau monde se parle, communique, en partie grâce aux réseaux sociaux qui a clairement décuplé la frappe de la charge de ce terrorisme d'ultra-droite. Je ne sais pas si on va rentrer dans le détail,
bien. Mais
nous, on s'est intéressé entre autres à... Pardon David, peut-être je me suis un peu emballé, pardon.
Non, pas du tout. Non, tu t'es pas du tout emballé. Je voulais juste prévenir que j'ai demandé à Jean-Pierre de se reconnecter. Je sais, voilà, là il l'a fait. Je sais pas s'il nous entend, Jean-Pierre. J'ai l'impression qu'il nous entend pas. Tu nous entends, Jean-Pierre, ou pas? Ah mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il nous entend pas.
Mais
qu'est-ce qu'il fait?
D'habitude c'est moi qui ai des problèmes techniques.
Dans l'équipe, c'est lequel des deux est le plus technicien? Donc, en effet, ce sont deux documentaires qui sont disponibles sur Arte. En fait, j'attends que Jean-Pierre puisse se reconnecter pour redémarrer l'émission, faire le lancement. C'est quand même étrange parce que on le voit très bien. Il a une très bonne connexion, mais il ne nous entend pas. Alors que toi, tu m'entends. Tu lui as envoyé un petit texto là ou pas, Raphaël? À Jean-Pierre, non?
Voilà, absolument. Là, je viens de lui envoyer un petit message en disant on ne t'entend pas, mais vu qu'il n'y a pas les deux petits coches bleues là sur cette application dont on taira le nom, eh bien, en fait, ça veut dire qu'il a dû éteindre son téléphone.
C'est ça.
Est-ce que tu nous entends? on en arrive à faire des signes là, c'est pas mal.
Ouais. Non, mais il nous voit pas non plus. Donc là, je pense qu'il a un vrai, il a un problème de son côté. Ah si,
je vous entends.
Ça y est, nous entend.
Ah, magnifique.
Jean-Pierre Canet. Bon, vous savez quoi, les gars, on recommence. 3, 4, amis du café, amis du travail bien fait. Bonjour. Nous sommes le 19 mars 2026 et 18h06. J'ai le bonheur et la joie de recevoir un gars que je ne connais pas. mais qui m'a l'air fort sympathique, qui est à gauche de votre écran, Raphaël Tressanini, et un autre que je connais très bien, qui est à droite de votre écran, et c'est pas un hasard, qui s'appelle Jean-Pierre Canet, que j'ai connu en culotte courte. Tous les deux forment depuis quelques années l'un des tandems documentaires les plus actifs de la téloche française. On leur doit notamment un film sur Jean-Marie Le Pen, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais ils sont là aujourd'hui pour leur dernier film, Terrorisme d'ultra-droite, qui nous plonge dans les réseaux suprémacistes européens et américains. De Terrorgram, que je ne connaissais pas, aux Active Club suédois, en passant par le Dark Web. Bon, bah ça, c'est pour vendre un peu à Arte, ils ont compris. Si on met Dark Web, ça vend un peu, quoi. Et où il est question de Bretton Tarrant, dont on va parler. Mais avant la diffusion, avant même sa diffusion, votre film a-t-il créé ou a-t-il subi une polémique? Mais toujours est-il que Arte l'avait déprogrammé en urgence, sans explication, quelques jours après la mort du néo-nazi Quentin Deranc à Lyon. Le documentaire va finir par être diffusé. Il est actuellement disponible sur la plateforme d'Arte. Et je pense que cet épisode dit quelque chose sur les nerfs des chaînes publiques face au sujet. Est-ce que je vous mets dans l'embarras en parlant comme ça?
Alors déjà, on a répondu à toutes ces questions à des tas de journalistes, donc on est très à l'aise.
Alors allez-y. Allez-y.
Vas-y.
David, vous nous mettez... D'ailleurs, on se tutoie, on se voit, je ne sais pas trop, c'est...
Ah bah moi, vu vos copains, je préfère qu'on se vous voit, hein, parce que vu les mecs que vous avez rencontrés, moi je vous connais pas. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci, bien sûr.
Bah, écoute David, non, tu nous mets pas du tout dans l'embarras, c'est que voilà, nous, ce qui nous a été dit côté Arte, c'est que voilà, effectivement, après le décès de Quentin Deranc, l'ambiance en France était un brin tendue, que le film n'aurait pas été réceptionné comme il se doit. Alors, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre, hein, c'est ce qu'on a dit à la plupart des autres confrères qui nous ont interviewés, qui nous ont posé cette question, c'est que, alors, en ce qui me concerne, je peux comprendre cette décision, mais ça ne veut pas dire qu'on la valide non plus. On était évidemment pas très heureux en fait d'avoir été décalé. Après. Il s'avère que le documentaire n'est pas mis dans un placard. Il va sortir dans quelques jours à la télévision, le 24 mars, qu'il a été mis en avant sur la plateforme dans les incontournables il y a encore quelques semaines de cela. Donc, enfin voilà, il est là, il existe. Ensuite, oui, effectivement, est-ce que ça raconte quelque chose de la télévision? Est-ce que ça raconte quelque chose du narratif très puissant en ce moment porté par l'ultra-droite? Même l'extrême droite, hein, pour parler très clairement, certainement, peut-être.
Pour ajouter quelques mots à ce que vient de dire Raphaël, nous on se tutoie depuis 20 ans, donc on ne va pas changer.
25.
En gros, nous, ce qu'on a.
25, on a 25 ans.
25, ouais, pardon. Oui,
mm-hmm. T'as des lunettes maintenant. Bien. Alors on y va.
Ce qu'on disait, et pour compléter ce que disait Raphaël, nous on a signifié tout de suite d'abord. On n'a pas été consulté, donc c'est vrai qu'on a dit on a fait savoir à Arte que c'était pas très classe de pas nous demander notre avis. Après, je pense que c'est une décision qui a été prise au sein d'un groupe. Pour être clair, c'est une décision d'Arte qui est un peu cacophonique. À aucun moment ils n'ont retiré le film du site. Donc déjà ils l'ont laissé. Il faut quand même bien le signifier. On n'a pas à faire une censure en bonne et due forme, pas du tout. On a pu faire une espèce de coup de peur, oui, clairement. Ça raconte plein de choses. Je vais venir dans deux secondes. Je vais juste être très précis sur ce qui nous est arrivé à écarter parce que je le dis et sans flagornerie, il n'y a que deux endroits où on peut travailler sur ces sujets. Chez Arte, en documentaire grand public sur les chaînes de télé, il y a France Télévisions et il y a Arte. Donc, moi, j'ai envie de les défendre quand même pour ça, hein, parce que c'est quand même grâce à ces chaînes-là qu'on peut faire ces sujets dans des docs un peu ambitieux avec un peu de moyens.
Absolument.
Donc, déjà, merci Anne Grolleron et Fabrice Puchot de nous avoir suivis là-dessus dans des conditions pas faciles. En revanche, cette décision, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle cède au narratif de l'extrême droite, tout simplement. C'est-à-dire que sous prétexte effectivement de, alors c'est pas eux qui ont pris la décision, je tiens à le dire aussi, hein, c'est des décisions qui sont prises dans les hautes sphères d'Arte. Là où nous on est en droit et en devoir de dire qu'on n'est pas d'accord, même si immédiatement une date a été reprise pour la diffusion sur la chaîne, qui aura lieu donc le 24 mars, là, dans quelques jours. Donc tout va bien en vrai, on n'est pas du tout dans le cadre de la censure d'un documentaire comme j'avais connu sous Vincent Bolloré à Canal+ sur le Crédit Mutuel, pas du tout. Mais en revanche, ça dit quelque chose des de la peur qui s'empare de ce pays à beaucoup de niveaux, dans beaucoup d'institutions, pas seulement les médias publics, mais aussi, on sent clairement, et notamment avant les municipales ont quand même rebattu un peu les cartes, parce que c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est pas non plus la voie royale de l'extrême droite au pouvoir, clairement, heureusement d'ailleurs, mais clairement, il y a une sorte d'inversion gramscienne, hein, pour employer les grands mots, c'est-à-dire que il y a 20, 30 ou 40 ans, l'extrême droite, c'était vraiment, c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Et là, aujourd'hui, elle fixe un peu le tempo, c'est-à-dire qu'on a quand même eu une minute de silence. Attention, je tiens à préciser que la mort d'un homme ou d'une femme est toujours un drame, hein, quelle que soit sa couleur politique. En revanche, une minute de silence pour quelqu'un qui faisait partie d'un groupe à l'Assemblée nationale, donc qui faisait partie d'un groupe identitaire parfaitement antidémocratique, néo-nazi, puis il y a eu d'autres informations ensuite. Une décision qui a été prise dans la hâte, sous l'impulsion de M. Ciotti, rappelons-le, est une catastrophe historique, clairement. Enfin, je veux dire, symboliquement, c'est quelque chose de très grave. Et donc ça a posé, entre autres, une atmosphère dans le pays où, d'un seul coup, c'était presque des victimes. Et d'ailleurs, ce monde de l'extrême droite violente a trouvé là un martyr avec la complicité d'une bonne partie de la classe politique française. Donc c'est bien sûr très grave. Et là où les médias doivent tenir dans ce genre de situation, c'est que justement, c'était l'occasion, dans le tumulte des événements, de rappeler les faits. Rappeler les faits, c'est très simple. Même si on a des problèmes statistiques en France sur les comptages de la violence de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou de toute autre obédience politique,
on va y venir.
Il y a des faits qui sont clairs. Je vais peut-être rappeler les chiffres en deux secondes, mais depuis 1985, on enregistre, en tout cas des historiens et des chercheurs qui ont travaillé sérieusement sur tout ça, enregistre 58 morts, en fait, provoquées par des violences d'extrême droite, contre 6 du côté de l'extrême gauche. Donc, c'était l'occasion de rétablir les faits, et il faut fermement le faire, à tout moment.
Voilà. Je vous propose qu'on regarde, puisque votre boîte de production a eu la gentillesse de concocter quelques extraits, qu'on regarde le début de la partie 1, donc du documentaire. Ça dure 3 minutes et là on voit votre patte, c'est d'une efficacité redoutable, et on reviendra ensuite en détail sur votre enquête, sur ce que vous racontez, sur éventuellement ce que vous n'avez pas pu raconter, etc. À tout de suite. Voilà les 3 premières minutes du premier épisode. Il y en a 2. Par quoi on commence quand on s'attelle à une telle enquête?
vaste question. Il y a déjà, en fait, la manière dont on a œuvré avec Jean-Pierre était que on a commencé en fait par aller creuser au niveau des données, en fait, et on s'est rendu compte que tous les pays ne comptabilisaient pas les violences d'extrême droite et qui plus est le terrorisme d'extrême droite. Donc ça, c'est la première porte. Ensuite, on a commencé à regarder les pays qui étaient, hélas, les plus touchés par ce phénomène. Donc voilà, on en est arrivé au constat que l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Suède étaient clairement des pays qui racontaient chacun leur manière, en fait, comment était sous-estimé non seulement cette violence d'extrême droite, mais surtout ce terrorisme d'extrême droite. Et alors, il y a des choses comme ça où on avance et on découvre, c'est-à-dire que déjà, la notion même de terrorisme, ça peut paraître un peu naïf et un peu bébête que de le dire comme ça, mais on s'est rendu compte que la définition même du terrorisme n'était pas la même selon les pays. Voilà pourquoi d'ailleurs on commence par cette définition de l'ONU, de ce qu'est le terrorisme. Alors déjà, voilà, c'est la manière dont on œuvre. Et ensuite, on s'est rendu compte que oui, il y avait des problématiques inhérentes à chacun des pays. Pour l'Allemagne, une des choses qui est la leur, c'est que malgré l'énorme travail de mémoire qu'ils ont effectué, il y a un rebond, mais qui est vraiment terrifiant, en tout cas des violences d'extrême droite, avec ce bout de démarche, si j'ose dire, qui est le terrorisme. pour la France.
Alors, ça, on va y venir, parce qu'on aura un extrait sur l'Allemagne. On aura aussi un extrait sur la France. Mais donc, au début, c'est les chiffres. Hein. Vous essayez de quantifier la menace. Or, dès le départ, il y a Nicolas Lebourg, bien connu de nos services, très favorablement, puisque nous animons ensemble une émission sur l'extrême droite depuis maintenant 3 ans, une mensuelle, qui vous dit « on manque de chiffres ». En France, on manque de chiffres. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes tombé là-dessus ? C'est-à-dire sur cette idée que finalement, tout ça n'était pas bien répertorié, quantifié, classé.
Il y a plusieurs choses qui rentrent en considération. C'est vrai que, tout bêtement, quand on commence une enquête comme celle-ci, déjà, en fait, il faut trouver l'entrée. Là, je précise aussi avec Raphaël, on a beaucoup réfléchi à l'entrée, parce que rentrer dans les mouvements terroristes d'extrême droite, je veux dire, comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi trouver une porte d'entrée. Au début, on était parti sur les repentis, en fait, hein, les fameux repentis, les gens qui sortent de là et qui viennent témoigner, qui ont côtoyé des mouvements, parce que nous, c'est très spécifique, c'est la violence. Mais si en plus la violence susceptible de passer au terroriste, c'est quand même particulier. Donc ça, c'était quand même la porte d'entrée, puis on s'est aperçu que ça suffisait pas, en fait. C'était intéressant, mais c'était un peu paresseux d'aller que là-dessus. Enfin, paresseux, ça englobait pas le phénomène, et notamment le phénomène international. Très important de comprendre que c'est un phénomène international. Donc on a essayé de comprendre comment fonctionnaient ces réseaux connectés, souvent sous-estimés d'ailleurs par les services de police dans leur connexion. Et puis ensuite, effectivement, on s'est dit, ben, déjà, on est français, et notre objet...
Allô, allô ?
Vous m'entendez ?
Oui, on t'entend.
Je disais donc, on est français, donc forcément, on a commencé par c'est la loi de proximité, hein, tout bêtement. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y a 20 ou 30 ans, on collectait beaucoup plus facilement les actions concrètes et notamment les actions violentes de différentes obédiences politiques, parce qu'on avait, et tu connais bien ça, David, parce que tu as beaucoup travaillé là-dessus, on avait les RG, les renseignements généraux. Mais les RG ont eu une dérive, presque depuis toujours, il y a eu beaucoup de critiques à droite comme à gauche d'ailleurs, notamment sous le patronage d'un monsieur qui s'appelait Yves Bertrand à la tête des RG, vers une dérive de police politique un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui étaient au pouvoir se servaient des RG pour faire des enquêtes sur les adversaires politiques. Ils étaient un peu détournés souvent de leur objet initial qui était la surveillance du territoire, tout simplement. Donc ça s'est transformé en surveillance du territoire, justement. Ça, c'était sous Sarko. C'est Nicolas Sarkozy qui a décidé ça. Mais en même temps, en décidant de dépolitiser un peu les RG, il a aussi, et je dirais qu'il a jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire qu'on a perdu aussi à ce moment-là, pas seulement à ce moment-là, mais en particulier à ce moment-là, on a perdu une acuité statistique pour faire le lien entre une action violente et une origine politique. Donc, ça s'est perdu, et puis on a continué comme ça, sous prétexte aussi de problèmes sans doute budgétaires et autres. Bref, ça a fondu comme ça. Ça, c'est une longue traîne dans les années 2010-2020 où on est un peu aveugle. Et heureusement, on a des chercheurs, tu en as cité un, Nicolas Lebourg, un historien, mais quelques autres aussi, Madame Sommier par exemple, qui ont travaillé qui ont reconstitué en fait ce manque statistique en travaillant sur les faits, en allant chercher des informations. D'abord, quand même, dans les statistiques du ministère sur les violences, en essayant de les rattacher à des faits, à des origines politiques. Mais ça reste artisanal. Parfois, c'est d'ailleurs sous l'impulsion du ministère que ça se produit. Mais parfois aussi, c'est des recherches qui sont déclenchées dans leur secteur de recherche. Donc oui, on est un peu aveugle en fait sur la connaissance de la violence politique liée aux actes, quoi. Et puis, on est encore plus aveugle. Je pense qu'il y a un autre phénomène qui nous aveugle, c'est aussi qu'on a quand même subi en France un terrorisme djihadiste extrêmement fort, islamiste, et ça a été le très gros arbre qui a caché la forêt des autres et qui a fait que les services de police, la DGSI et puis le PNAT également, le parquet national antiterroriste, créé il n'y a pas si longtemps que ça, ont quand même focalisé leur effort sur ce premier danger qui est réel par ailleurs. Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous avez double-cliqué sur le retour, mais si vous le faites, vous verrez le chat. Il y a quelques questions, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Il y en a notamment une de FBAE75 qui vous demande si l'attentat de Timothy McVeigh à Oklahoma City, le plus important aux USA avant le 11 septembre, est-il considéré comme du terrorisme d'extrême droite ? Bingo, ça fait partie de l'épisode 2. Hein, et il est même la matrice.
Ah oui, absolument. Vas-y, Raph.
Absolument, il est complètement la matrice, en tout cas, de ces terroristes d'extrême droite américains. Pourquoi ? Parce que, en fait, Timothy McVeigh, c'est quelqu'un qui met à l'œuvre une des thèses, en fait, portées par les penseurs qui gravitent autour de cette ultra-droite internationale. Alors, ce penseur, je vais en parler dans un instant, mais en gros, cette thèse est la suivante, c'est l'accélérationnisme. Qu'est-ce que c'est l'accélérationnisme, en fait ? C'est des centrales nucléaires, c'est aller bloquer des infrastructures d'eau, d'électricité, etc., pour créer une guerre civile et ensuite, à terme, établir une utopie blanche. Voilà, en gros, l'idée de l'accélérationnisme, en fait, où ces gens-là aimeraient l'amener. La personne qui porte tout cela, c'est quelqu'un qui s'appelle James Mason, qui est d'ailleurs toujours en vie aux États-Unis. Alors, effectivement, on ne parle pas de Mason dans le documentaire parce que voilà, à un moment, il faut faire des choix. Donc, ce qui comptait pour nous, avec Jean-Pierre, c'était de raconter ce qu'est cet accélérationnisme. Mais oui, de fait, c'est une des pierres fondatrices de ce mouvement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs groupes tels que les Atomwaffen. FN qui, eux, par exemple, sont des personnes qui se disent « on doit faire comme ça, c'est comme ça qu'on doit faire, on doit œuvrer, taper fort et le faire le plus de morts possible pour qu'à terme, il y ait un choc au sein de la société et qu'à terme, il y ait une guerre civile et qu'à terme, on la gagne et qu'on impose notre société. » Donc oui, c'est clairement du terrorisme.
Fondateur. Oui, et c'est fondateur, donc c'est cet attentat Timothy McVeigh. D'ailleurs, il faut ça nous ramènera peut-être aux questions que tu auras peut-être à nous poser ou que les gens qui nous suivent auront peut-être à nous poser sur le sujet qu'on avait fait, enfin le documentaire qu'on avait fait sur Jean-Marie Le Pen. Enfin, faites conscient que si l'extrême droite en arrive aujourd'hui à être dominante politiquement et aussi avoir des traductions radicales violentes qui conduisent au terrorisme, bah c'est parce qu'il y a un corpus idéologique en fait qui s'est mis en place depuis très longtemps. Raphaël vient d'en mentionner un très important, l'accélérationnisme. Allons au plus vite vers la guerre civile. C'est ça, l'accélérationnisme. Alors, accrochons-nous deux secondes. Il y a un penseur qui gravite autour de la sphère Trump et J.D. Vance, qui s'appelle Nick Land, et qui est l'initiateur profond. C'est l'un des intellos qui tourne autour des big tech et des big states. Je fais un petit pas vers les États-Unis parce que c'est important aussi. Ce Nick Land, qui est un philosophe... pas auto-qualifié, il est véritablement philosophe, contrairement à Curtis Yarvin, son camarade. C'est un Anglais qui a développé très vite ce concept d'accélérationnisme. À la base, c'est un accélérationnisme technologique, c'est-à-dire on va au plus vite à la conquête du monde par la technologie. Et ce concept-là a été repris, parce que Nick Lang est un penseur d'extrême droite extrêmement ultra-conservateur, ce concept a été réadapté par les mouvements néo-nazis, potentiellement terroristes, en tout cas la sphère violente de l'extrême droite au sens large, pour le transformer en accélérationnisme. Précipitons la guerre civile au plus vite, notamment avec les concitoyens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, ou les migrants, bien entendu. Voilà, c'est un concept qui est très important et il faut bien comprendre que l'idéologie d'extrême droite, on a beaucoup ridiculisé leur pensée. En fait, elle est en place, elle s'est mise en place et elle a fait son chemin d'année en année sans qu'on s'en aperçoive vraiment et sans qu'on la prenne au sérieux.
À propos de guerre civile, de mémoire, il y a un des protagonistes, des gens que vous avez interviewés, qui en fait veut accélérer la guerre civile pour empêcher la guerre civile. Enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Il faut qu'on tire les premiers pour empêcher qu'on nous tire dessus. C'est une espèce de délire, quoi.
C'est d'ailleurs ce que nous dit, ce professeur qu'on a interviewé qui s'appelle Lawrence Rosenthal, qui est un éminent spécialiste de Berkeley sur les extrêmes droites américaines et européennes. Donc c'était hyper intéressant de parler avec lui. C'est pour ça qu'on a été le rencontrer, parce que il nous parle effectivement de la jonction en fait entre ces deux extrêmes droites qui, pendant très longtemps en fait, n'avaient pas de socle commun. En fait, l'histoire de l'extrême droite européenne n'est pas de l'extrême droite américaine. Et pendant très longtemps, en fait, ils ne communiquaient pas, en fait, ces gens-là. Mais évidemment, à partir des années 80-90, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient effectivement des points de convergence. Et À partir du moment où ils se sont dit on a un ennemi commun, à savoir l'immigré, l'autre, il y a eu effectivement une sorte d'union qui s'est créée entre ces deux-là. Mais donc pour revenir à ce que tu disais, David, sur tout ça, c'est que oui, effectivement, ces gens-là, ils communiquent entre eux, ils se parlent désormais, et donc ce que nous dit Rosenthal, il nous dit la chose suivante, il nous dit ces gens-là ont un fantasme en fait de renversement de la démocratie. Ils ont un fantasme de violence. Et d'ailleurs, la pointe émergée de l'iceberg, on l'a bien vu le 6 janvier 2021 lors de l'attaque du Capitole. On voit des gens qui viennent pour en découdre. Dans leur tête, c'est on défend son idéal, son idéologie par la violence. Ça passe forcément par la violence. Et de fait, la conséquence de tout cela, ça ramène au terrorisme. C'est ça justement le vrai danger. Donc oui, effectivement, le principe de la guerre civile, le principe de reprendre le pouvoir, les armes, enfin, hélas, c'est quelque chose qui est inhérent à l'extrême droite et en particulier l'extrême droite européenne. Oui.
Alors, vas-y, Jean-Pierre, oui.
Non, ce que disait Raphaël est très juste. En fait, ce que vous allez me dire, on enfonce peut-être une porte ouverte, mais le terrorisme d'extrême droite, c'est l'antichambre, enfin, c'est l'acte qui précède l'insurrection, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne se met d'accord sur la définition du terrorisme, parce que qualifier l'ennemi terroriste, c'est immédiatement le disqualifier. Donc c'est pour ça que c'est difficile de se mettre d'accord, puisque chacun se l'approprie pour désigner l'ennemi. En l'occurrence, nous, ce qu'on peut vous dire, on peut vous affirmer ce soir que le terrorisme d'extrême droite, ce sont les actes individuels ou de groupe qui précèdent une volonté insurrectionnelle pour renverser les démocraties, la République au passage. Voilà,
Alors, c'est assez simple. Vous revenez effectivement dans le documentaire sur le Capitole, hein, en remettant quand même la phrase de Trump qui lance les hostilités. Hein, c'est quand même lui qui dit on va marcher sur le Capitole et puis il y a des femmes et des hommes du Congrès qu'on va pas saluer. Il envoie le message. Restons deux secondes aux États-Unis, même si je pensais qu'on en parlerait à la fin. Là aussi, vous dites qu'il n'y a pas de chiffres, mais vous en donnez, vous arrivez à en trouver. Vous dites qu'il y a eu entre 1390 et 1440 victimes du terrorisme d'extrême droite entre 1990 et 2024. Hein, donc c'est quand même colossal.
David, je me permets quelque chose parce que les données, tout de suite, ça peut un peu prêter le flanc à la critique. Ce panachage en fait de sources pour obtenir ce chiffre qui n'est pas exact, puisque comme effectivement c'est de 1000 et quelques, ça s'est fait, on l'a fait sous la direction justement de ce professeur de Berkeley, c'est-à-dire qu'on s'est pas improvisé chercheur pour le faire. Donc voilà, je tenais à le dire au passage. Et ce qui est surprenant, ce qui est incroyable aux États-Unis quand même, qui est un pays qui beaucoup les data. Jean-Pierre parlait des big tech tout à l'heure. Enfin, clairement, obtenir les data aux États-Unis, on sait faire. Eh bien ça, on ne le fait pas. Il n'y a pas de chiffre centralisé sur les actes terroristes d'ultra-droite aux États-Unis.
Oui, mais justement, là, vous donnez une explication que vous ne donnez pas pour la France ni pour les autres pays. Vous parlez de complaisance policière, hein, notamment à Charlottesville. Là, c'est les images qu'on a vues au début dans vos trois premières minutes qui sont absolument dingues. Cette bagnole qui avance, qui recule, qui écrase des gens, bon, bref. Mais à ce moment-là, vous parlez de complaisance policière. Hein, vous démontrez tout à fait comment des néo-nazis, des nazis aux États-Unis peuvent agir en toute impunité, etc. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que cette complaisance policière, on la retrouve ailleurs, parce qu'il y a une concordance de pensée, quelques accointances, une culture commune, pas tous les flics évidemment, mais une partie de l'appareil policier, qu'il soit allemand, français, danois, suédois, pardon, australien.
Je dirais que les situations sont différentes d'un pays à l'autre. Alors, on va parler que des pays qu'on a travaillé. On n'a pas trop travaillé sur la question police militaire en Suède, qui fait partie des pays qu'on traite. En revanche, on a travaillé sur la radicalisation d'extrême droite des militaires en Allemagne, et on a quand même étudié de près ce qui se passait en France, parce qu'en France, il y a un double mouvement Il faut dire les choses. La DGSI fait plutôt bien son boulot sur les repérages de réseaux terroristes d'extrême droite, même s'ils ont passé.
Oui, oui, vous êtes bien au poste.
Ils ont un peu sous-estimé la menace, mais ils n'étaient pas complètement à la rue. En revanche, clairement, il y a, et ça c'est très inquiétant, il y a un mouvement de fond, mais depuis des années, je pense qu'ici vous en avez souvent parlé, vous en reparlerez souvent, d'une radicalisation de la police française dans beaucoup de secteurs, pas seulement dans beaucoup de secteurs, notamment les gens qui agissent sur le terrain, vers l'extrême droite. On est incapable de vous donner des chiffres aujourd'hui parce que c'est tout un travail extrêmement important à mener et qu'il faut faire avec minutie, suivant les secteurs, suivant la nature de cette radicalisation. Mais clairement, il y a un sujet là-dessus. Et il y a un sujet qui connecte, l'un des points de connexion sur lequel il faudrait travailler. On ne peut pas tout faire dans un documentaire, hein, mais l'un des points sur lequel il faudrait travailler, c'est notamment l'équivalent un peu des actifs clubs, qui sont ces clubs de sport dans lesquels on se retrouve pour faire de la muscu, du combat, du MMA et autres, et qui sont des vrais points de connexion entre un certain nombre de policiers radicalisés et d'autres gens qui voudraient donner le coup de poing ou qui ne seraient pas flics, mais qui se retrouveraient dans ces idées-là. C'est un phénomène, on ne peut pas le quantifier facilement, parce que c'est un vrai boulot, en fait, mais c'est un phénomène existant, incontestablement. Et en Allemagne, bah, vous l'avez vu dans le documentaire, ou vous le verrez pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu encore, il y a un vrai risque. En Allemagne, il y a vraiment un phénomène de radicalisation de toute une partie de la police, notamment dans les Länder. Donc, localement, enfin, régionalement, il y a un vrai phénomène. On retrouve beaucoup de policiers dans des groupes radicalisés d'extrême droite violents. Et on a aussi, donc, nous, raconté l'histoire du KSK, qui est ces forces spéciales allemandes, militaires, donc, qui ont été aux prises grâce au courage d'ailleurs d'une civile, hein, il faut bien le dire, c'est grâce au courage d'une jeune femme qui s'est retrouvée dans une soirée de la deuxième compagnie du KSK et qui a noté un certain nombre de comportements néo-nazis.
On va regarder, si tu veux bien, on va regarder un extrait saisissant sur l'infiltration de l'armée allemande par l'extrême droite. Ça dure 2 minutes 25. Mais avant ça, j'ai une petite question du chat. C'est la baguette marxiste. Eh oui, la baguette marxiste qui vous demande, est-ce que vous avez pu parler à des personnes du PNAT? Et si oui, est-ce qu'il y a une méconnaissance ou une complaisance de leur part? Alors, Jean-Pierre, tu viens de dire du bien de la DGSI. Bon, bah, au bout de 5 ans sur Opos, il fallait bien que ça arrive un jour. Mais la faute. Mais bon, c'est pas grave. Sur le reste. Non, je rigole.
Le PNAT... Vas-y, Raph.
Les gens, donc le PNAT, le parquet antiterroriste, on a rencontré une personne qui communique avec la presse deux ou trois fois, si je ne m'abuse, Jean-Pierre. C'était une personne vraiment, vraiment ouverte. Sincèrement. Je sais qu'on est au poste, David, mais bon, voilà, il faut.
Nous, on tient notre barre. Hein. Quand on parle à des gens qui sont ouverts, on le dit.
Elle a été. Non, mais ça, d'une certaine manière, ça va aussi répondre à la question précédente. Cette personne-là nous dit quoi ? Elle nous dit, non, nous, on n'est pas en train de occulter le terrorisme d'ultra-droite. Nous, en fait, on est un parquet. Et en fait, on fait avec ce qu'on a, avec les informations qu'on nous amène. C'est-à-dire, en fait, pour que le PNAT s'autosaisisse, il faut vraiment que ce soit très flagrant. Or, en l'occurrence, comment ça se passe ? Si quelqu'un va perpétrer un acte violent qui est considéré comme un acte terroriste quelque part en France, si des policiers qui arrivent sur place, lorsqu'ils arrêtent la personne et qu'ils se rendent compte que dans le véhicule, il y a un drapeau français, un flingue, des écrits racistes, et qu'ils ne le mettent pas dans le PV, bah forcément, ça n'arrive pas au PNAT, et forcément, ça n'est pas un acte terroriste, puisque ça n'est pas basé sur un acte politique. Voilà, c'est juste un homicide, hélas,
bien sûr,
de choses. Le PNAT fait avec ce qu'il a, et en plus, rappelons-y que c'est quand même une cour qui est assez jeune, qui est en train d'apprendre en marchant, et en tout cas, nous, on a été témoins de conversations entre eux, face à des gens, à des magistrats qui véritablement s'interrogent sur la nature du terrorisme. Comment on fait pour définir le terrorisme? s'arrête un homicide, on va dire lambda, et où commence un homicide politique. Enfin voilà, il y a un vrai travail qui est effectué chez eux, vraiment sans flagornerie encore une fois, mais faut reconnaître en fait qu'il y a une vraie prise de conscience au sein du PNAT et qui bosse sur le fond. Après, comment ça fonctionne au quotidien, on n'était pas au quotidien, quoi.
Bien sûr.
Ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a des failles. C'est-à-dire, en gros, ils avancent en marchant. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que le PNAT, il y a des réunions officielles pour décider si une affaire doit être. Parce que c'est les seuls en France qui peuvent décider de qualifier une affaire de terroriste. Vraiment, c'est les seuls. Le parquet national antiterroriste est le seul à pouvoir s'auto-saisir. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est lui qui donne le label terroriste ou pas. Donc, comme vous le verrez si vous ne l'avez pas vu, ou comme vous avez pu le constater dans notre doc, on pointe des affaires qui mériteraient d'être sans doute qualifiées de terroristes. Nous, d'ailleurs, notre grand enjeu, l'un de nos grands enjeux de ce documentaire, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a auto-qualifié, et là on l'assume, un terrorisme de basse intensité.
Absolument.
Il est au-dessus de l'acte violent, mais il n'est pas qualifié de terroriste. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce que vient de dire, donc ça, il y a un vrai problème là-dessus, clairement. Il y a une sous-estimation.
C'est là, Jean-Pierre, où je discuterai. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une sous-estimation ou est-ce que c'est une hésitation juridique? Alors oui, je suis d'accord. Le terroriste est toujours le terroriste de l'un est toujours le résistant de l'autre. Ah, ça, c'est toujours voilà. Les nazis qualifiaient les résistants français de terroristes et inversement, bien sûr. Mm-hmm. Là-dessus, on n'en sort pas. Mais est-ce que c'est une hésitation juridique? On ne voit pas, par exemple, quand il s'agit des mouvements marqués très à gauche, ou qu'on ne voit absolument pas quand il s'agit de terrorisme type djihadiste, où tout de suite ça s'autosaisit. Sur l'extrême droite, il y a quand même une hésitation, et cette hésitation, voilà ma question, est-ce qu'elle est seulement juridique ou est-ce qu'elle est politique?
Alors, nous, on essaye de répondre aux questions quand on a bien travaillé sur le sujet. Est-ce qu'y a-t-il une espèce de racisme inconscient qui ferait faire une différence, soit dans les services de police, soit par exemple au PNAT, sur le fait d'être plus indulgent, par exemple, avec un acte de violence potentiellement terroriste d'un blanc face à une personne racisée qui serait en plus de cela islamiste et qui crierait à la Wakbar, et là, immédiatement, on est sur un acte terroriste. Mmh. Clairement, il y a un truc de cet ordre-là. Le qualifier, le quantifier, franchement, c'est pas facile. C'est un sujet, clairement. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec soit des policiers qui connaissent bien le sujet, soit des gens du PNAT, ils savent qu'il y a ce risque-là. Il y a une espèce de corriger des variations saisonnières qu'il faut prendre en compte, clairement. Est-ce que ça suffit comme explication? Non. Il y a aussi un truc tout bête, c'est que les attentats islamistes ont quand même pris beaucoup de place et ont mobilisé beaucoup plus le PNAT et les services de police spécialisés que l'extrême droite. La radicalisation d'extrême droite, notamment des groupes qui ont été jugés là cette année, comme AFO par exemple, ou Honneur et Nation, qui ont été donc condamnés pour terrorisme en France, en bande organisée, ils se sont beaucoup radicalisés pendant le Covid. Le Covid a été un moment de puissance de radicalisation extrêmement forte, notamment chez les personnes plutôt âgées d'ailleurs, je dirais entre 50 et 70 ans. Vous vous retrouvez avec des groupes AFO, c'est ça, hein, Axio
des forces opérationnelles.
Ouais, c'est un groupe, ils ont la moyenne d'âge doit être à 65 ou 60 ans à peu près, et c'est il y a des anciens policiers d'ailleurs là-dedans qui se prenaient en fait, eux ils ont même pas conscience d'être à l'extrême droite. Pour eux, ils étaient en phase de défense du pays contre les hordes de barbares qui venaient s'imposer dans notre pays. C'est vraiment ça. Ils se sont auto-radicalisés. Pas mal d'entre eux avaient déjà des idées d'extrême droite et certains d'entre eux étaient des fans d'Adolf Hitler, clairement. Mais pas tous. En tout cas, ils se sont fédérés autour de cette radicalisation-là. Et ce phénomène assez récent, hein, massif, il a été un peu sous-estimé. Le PNAT le reconnaît assez volontiers d'ailleurs. Hein. Après, oui, c'est une responsabilité de qualifier un fait terroriste. Ils font ça autant autour de la machine à café, mais je suis sérieux quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est un moment important tous les jours, ils en discutent, que dans des réunions officielles. Ils sont une trentaine à décider ça, hein. C'est pas beaucoup. Et ce que disait Raphaël est très important. Si les infos ne remontent pas correctement, si l'enquête, l'affaire Benjabala, dont on va sûrement parler, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on a bien fait remonter les faits correctement? Est-ce que toutes les données ont été communiquées au PNAT pour qu'ils puissent qualifier une affaire de terroriste? Ça, c'est un enjeu majeur. Il peut arriver que des policiers, localement, ne transmettent pas tout, bien sûr.
Avant d'aller en Allemagne, je voudrais remonter une question de Jalassat dans le chat. Vous avez dit, c'était au tout début de notre entretien, Raphaël, je crois que c'est toi qui a parlé de ça. Tu avais dit que la menace djihadiste avait caché la menace d'extrême droite. Mais Jalassat nous dit, les enquêtes ont pourtant montré que logistiquement, certains djihadistes avaient été aidés par des militants d'extrême droite. À quel point les deux menaces sont liées ? Ça n'est pas dans votre documentaire. Ce n'est pas un reproche, hein, mais...
Non, absolument, bien sûr. Non, mais alors si je me rappelle bien, un des points de contact qu'il y a eu entre ces deux terrorismes-là, c'est au moment, si je ne m'abuse,
le 13 novembre. Le trafic d'armes, oui.
Du trafic d'armes. Et d'ailleurs, alors pour le coup, on s'était un brin penché dessus. Et en fait, c'était pas très probant tout ça. C'est un intermédiaire qui passe par quelqu'un qui vend des armes. Donc voilà, si je devais caricaturer, on n'a pas un salafiste qui rencontre un néo-nazi où ils se parlent, ils prennent un café ensemble et ils s'échangent des kalachnikovs. Non, ça n'a pas existé, ce genre de situation. En tout cas, pas dans les dossiers. Après, que ces deux terrorismes se nourrissent l'un l'autre, ça, c'est indéniable. D'ailleurs, Nicolas Lebourg nous le raconte très bien. Là où il y a des velléités violentes, de violence et terroristes en France, ça arrive à partir de 2015. C'est-à-dire qu'il y a eu Charlie Hebdo le 13 novembre. Et là, on a des groupes, des milices qui commencent à se mettre en place, tels que la Brigade française patriote, qui sont des gens qui se regroupent sur cette base. Parce que... tout à l'heure, on parlait du fantasme de violence, on parlait du fantasme de guerre civile. Tentons plutôt de nous mettre dans les chaussons de ces personnes-là. C'est des personnes qui vivent dans un fantasme déjà du grand remplacement, déjà, quand même, cette théorie conspirationniste. Ils vivent là-dedans et ils se disent « il faut résister ». Il faut résister. Et là, il y a un phénomène qui est assez nouveau, qui a deux décennies, c'est le fait qu'on ait des personnes d'un certain âge, des seniors, qui vont maintenant sur les réseaux sociaux, qui vont sur Facebook. Et avec le filtre d'Internet, ils se lâchent en fait. Ils se lâchent complètement. Et lorsqu'ils se retrouvent, effectivement, comme nous le raconte Nicolas Lebourg, en vrai, ils sont un peu pris au piège en fait parce qu'ils ont écrit sur Internet, ces gens-là. Et du coup, ça crée une espèce de groupe
de jubilation.
Où se fomentent les uns avec les autres, et ensuite c'est à qui ira plus loin. Donc il y a une espèce de mélange entre fantasme de guerre civile, idéologie clairement extrême droite, boostée par Internet, et enfin, est-ce que tu as le cran d'y aller ? Donc un truc un peu viriliste, quoi. Donc ça fait un cocktail détonnant qui est objectivement, pour les renseignements, très difficile à percevoir. Parce que ce n'est pas des gens qui font des réunions de manière formelle où ils se rejoignent tous les jeudis soirs en faisant des saluts nazis. C'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, ils se déguisent, ou en tout cas, ils se travestissent derrière ce espèce de survivalisme, en fait, un peu à la petite semaine, où c'est des types qui se rejoignent en fait, dans des champs, dans des forêts, où ils font des barbecues. Et puis là, ils se montent le crâne.
Alors, je vous propose qu'on aille en Allemagne pendant 2 minutes et qu'on se retrouve, d'autant que il y en a un d'entre vous qui doit aller s'occuper d'un bébé. Hein. Il y a un petit bébé qui crie, je l'entends dans le casque. Alors, tu as 2 minutes 25 hein, pour... voilà, à tout de suite. Il a raison, merci Arte, merci Raphaël et merci Jean-Pierre pour votre boulot. Alors, plusieurs choses. D'abord, merci aussi de nous avoir confié cet extrait. En fait, cet extrait, moi, il m'a marqué par... en fait, la simplicité du dispositif du gars, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un hableur sur un marché. Il y a pas grand monde. Enfin, il y a quand même un discours d'une violence incroyable. Et il joue avec vous. Hein, et vous nous montrez qu'il joue avec vous. Donc déjà, voilà. Moi, je voulais savoir quand vous l'avez filmé, ce gars, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous voulez nous transmettre en dehors de ce que évidemment son discours qu'il nous donne. Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre en mettant cette séquence qui est très forte par sa simplicité en fait.
Parole à Jean-Pierre parce que c'est Jean-Pierre qui a tourné ce fameux Christian Clar, qui d'ailleurs, je tenais à dire,
ça m'étonne pas.
A eu du pif sur ça parce que quand il m'appelle quand il était en Allemagne, moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là, il me dit à ce mec, je fais bon bof, Et il y va, et en fait, oui, c'était effectivement terrifiant que de voir ces images. Donc, je t'en prie, Jean-Pierre.
Ouais, non, il y a plusieurs raisons. Coupe-moi si je suis trop long, David. Mais en gros, il y a déjà un problème, c'est que l'AFD, donc, qui est le mouvement d'extrême droite allemand qui ne cesse de progresser et qui devient, bon an mal an, le premier ou le deuxième parti politique d'Allemagne, en fait, a donc libéré la parole ces dernières années, ça on l'explique bien. La libération de la parole, bah, c'est la remigration qui devient une thématique qui était jadis tabou et qui emprunte aux lois nazies, hein, donc en Allemagne, qui emprunte aux lois nazies. Il faut quand même mesurer là, ce qui se passe en Allemagne dans le discours politique véhiculé par une AFD qui en fait...
Tu rappelles d'ailleurs, vous rappelez dans le documentaire, oui, qu'un des slogans de l'AFD, c'est tout pour l'Allemagne, et vous rappelez que c'est un slogan nazi.
Alles für Deutschland, ouais, c'est assez incroyable que ce slogan ait pu être. En fait, c'est une fois de plus comment l'extrême droite procède. Elle ouvre la fenêtre d'Overton, donc elle permet ce qui était tabou jusqu'à présent, pour des raisons évidentes, devient possible, devient normalisé. Et en fait, ce discours normalisé, violent, haineux, avec un corpus politique derrière, en fait, l'AFD, c'est le vaisseau amiral national, et en dessous, vous avez des relais. Martin Sellner en est un, Martin Sellner étant d'ailleurs entre les deux, parce que Martin Sellner, c'est un personnage d'envergure nationale qui conseille l'AFD, qui est proche de l'AFD, mais qui en même temps joue un peu l'électron libre. Et juste en dessous, vous avez des gens comme Christian Klar, c'est-à-dire le personnage qu'on vient de voir, qui eux agissent au niveau régional, au niveau local. Là, on est à Guéra, en Thuringe. C'est là que le premier élu, enfin, c'est là que la première fonction ministérielle locale a été, ministérielle régionale a été occupée par un nazi en 1933 ou 32 de mémoire. Il faut relire Chapoutot pour ça. Mais c'est la Thuringe qui fait démarrer c'est en Thuringe qu'on a vu émerger véritablement la gouvernance nazie dans les années 30. Donc, c'est pas anodin du tout, la Thuringe. Et Christian Klar, en fait, depuis le Covid, a commencé à réunir chaque lundi cette manifestation populaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. C'est que, en fait, il réunit qui ? Il réunit une partie des prolos et des petites classes moyennes allemandes qui n'ont pas de boulot, qui sont abandonnées par le discours de gauche, comme en France d'ailleurs. Hein, c'est l'abandon du discours social, du partage des richesses, etc., etc., qui est payé là, clairement, et il est récupéré par Christian Klar, qui au début d'ailleurs manifestait contre les restrictions du Covid, encore là, le Covid, qui joue un rôle pour rassembler les gens. Et ensuite, chaque lundi, depuis le Covid, eh bien, il manifeste et il fait ce défilé avec bon an mal an plusieurs centaines ou plusieurs milliers de gens dans les rues de Guéra pour s'en prendre aux immigrés, pour décliner tout le discours d'extrême droite violent. Il est lui-même violent physiquement, d'ailleurs. En revanche, il arrive toujours, et c'est pour ça qu'il nous interpelle, à faire passer ses troupes, et lui-même en particulier, pour les victimes. C'est-à-dire qu'en fait, il va égrener systématiquement le moindre fait divers qui implique un migrant ou qui implique une personne racisée allemande, parce qu'évidemment, il y a des criminels chez les gens qui ont une couleur noire de peau ou qui sont des Arabes comme des Blancs. Hein, ça arrive, hein, il peut y avoir des criminels dans toute l'humanité. Donc, en fait, il va prendre toute cette liste, tous les faits divers existants, et il va les égrener et il va en faire une espèce de sauce acide, de sauce toxique qu'il va répéter à l'envi, en fait, sans cesse. Et ça, c'est son discours central, et il s'en prend aux élus. C'est une vindicte contre les élus, il s'en prend personnellement à tous les élus locaux, donc il jette l'opprobre et il s'en prend très violemment, comme vous avez pu le constater. Et ça, donc ça, c'est son... Je dirais que c'est son corpus, c'est pour ça que c'était important de filmer ça pour voir comment ça se passait. Et en plus de ça, il se fait passer pour victime. Et puis évidemment, il a là deux journalistes, enfin il avait une équipe de journalistes sous la main. Et ben il se dit, je vais en faire des copains, quoi. Donc je vais m'adresser à Arte en disant bonjour Arte, merci d'être là. Ça c'est une communication assez classique. C'est évident qu'il le tente, quoi.
Je me suis demandé si c'était pas...
Pardon David, je voulais juste ajouter un truc là-dessus, c'est que en fait, il y a aussi une... Ce que disait Jean-Pierre sur le fait que l'AFD est le vaisseau amiral, si on devait comparer l'AFD et le RN, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements. C'est-à-dire que l'AFD a compris quelque chose vraiment sur le moment. Hein. C'est un parti qui est assez jeune. L'AFD, il existe depuis 2012-13. Et en fait, ils ont compris quelque chose, c'est qu'on a les politiques et qu'il faut des courroies de transmission, de communication du propos et de l'idéologie. Et ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre, un type comme Christian Clark, il fait partie justement de ce réseau, mais immense en Allemagne, immense. Dans chaque lander, on a 3-4 Christian Clark qui font des réunions comme ça partout, dans tous les landers d'Allemagne, en particulier en Allemagne de l'Est, évidemment, puisque c'est, hélas, la zone qui est la plus paupérisée. Et en fait, typiquement, si on avait un Barjot qui tenait ce genre de propos dans les rues de France, évidemment, la première chose que ferait le RN, c'est de dire non, non, on n'a rien à voir avec ce mec-là. C'est voilà. L'AFD ne sont jamais loin de ces gens-là. Ils ne sont pas en mode non. On sait que Christian Clark a rencontré des cadres de l'AFD et qui plus est, c'est en Thuringe, et la Thuringe, c'est l'endroit où Björn Höcke, où il est le chef de l'AFD, et Björn Höcke, personnage qui est très, très, très important dans cette courroie de transmission de la haine, c'est ce fameux type qui, effectivement, a remis au goût du jour en Allemagne le slogan qui était utilisé par les SA, donc les chemises brunes avant Hitler, qui est Alles für Deutschland, tout pour l'Allemagne. Donc voilà, c'est aussi ça le truc, et c'est ce qui explique aussi probablement le fait que le terrorisme d'ultra-droite est beaucoup plus puissant, beaucoup plus dangereux en Allemagne en ce moment qu'en France, fort heureusement.
Oui, alors, il joue beaucoup sur les tabous, hein, par ailleurs. C'est-à-dire que c'est tellement tabou le nazisme que, en fait, ça devient tentant d'y retourner. Il y a un peu de ça aussi. C'est ce qu'on ressent aussi quand on les suit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jouissance aussi à transgresser, à y aller, quoi, à oser, voire aller plus loin que ça.
Alors, c'est marrant, Jean-Pierre, que tu dises ça parce que. Que tu dis ça parce que moi c'est ce que j'ai ressenti quand il te dit bonjour Arte, c'est-à-dire que je pense que c'est une façon de dire bonjour à cette chaîne qui depuis 30 ans nous donne tellement mauvaise conscience en faisant autant de documentaires sur Hitler toutes les semaines, etc. Je me suis demandé s'il y avait pas ça, parce qu'en Allemagne ça a été beaucoup ça au départ d'Arte, et je me demande si il te dit pas regarde, je récupère ce truc-là. Mais ça m'amène à autre chose. On voit dans les images, bien que ce soit oui, il y a une forme de simplicité. On voit qu'il y a un décor. On voit qu'il y a des fanions, des drapeaux, des tatouages, des sigles. Et à quel moment vous n'êtes pas tombé dans une forme de, comment dirais-je, de fascination par ces symboles-là? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à se dire, là, il faut qu'on fasse gaffe, cette violence, elle est tellement télégénique. Ce décor est tellement envoûtant qu'on peut être pris, happé par le truc, à votre corps oui. Défendant, bien entendu.
Non, mais c'est l'éternelle question, c'est toujours pareil. Qu'est-ce faut-il montrer? À partir de quand on s'arrête? Alors, nous, on a pris le parti de montrer cette manifestation. On aurait pu, d'ailleurs, l'analyser beaucoup plus longuement encore. On avait d'ailleurs une première version du montage, on allait chercher la symbolique et expliquer un petit peu le vocabulaire symbolique. Et puis après, en fait, on s'est, justement pour ces raisons-là, on s'est dit, mais non, en fait, on est en train de donner, on est en train de jouer double jeu. C'est-à-dire que, OK, on informe, mais en même temps, on valide quelque part. Bon, c'est l'éternelle question avec tous les mouvements radicaux violents, antidémocrates, haineux, tout ce que vous voulez. En particulier l'extrême droite, c'est comment est-ce qu'on leur pose des questions tout en mettant les limites pour et surtout en donnant les clés et les outils pour qu'on comprenne à quoi on a affaire. Bon, nous, on estime que ça se fait sur la totalité du développement du doc. Évidemment, c'est pas parfait, c'est jamais parfait, mais en tout cas, ce qu'on a voulu montrer, c'est les différents éléments du rouage. Hein. Et ça, j'espère qu'on n'y est pas trop mal arrivé. Montrer effectivement que ce Christian Clark, c'est, comme disait Raphaël il y a deux minutes, c'est un élément du rouage, c'est un passeur de plat entre le national et le local. Et aussi, alors, on peut évidemment pas tout dire, hein, parce que moi, en fait, il y a clairement quelque chose qui, quand je suis cette manifestation, moi, ce que ça me raconte surtout, c'est l'abandon d'un discours politique construit pour les classes populaires, en fait. Vraiment. Alors, c'est un peu simpliste, mais c'est quand même une vraie réalité. Et ça, c'est ce qu'on a découvert avec Raphaël aussi beaucoup. Enfin, on a découvert, on le savait, mais en travaillant sur Le Pen. Eux, ils n'ont pas abandonné les classes populaires, en fait. Ils n'avaient plus qu'à se baisser pour ramasser les miettes d'un abandon politique qui dure depuis 25 ans.
Il a même cette phrase extraordinaire. On est pour un vivre ensemble qui marche.
Oui, voilà.
C'est quand même un retournement, mais là aussi, c'est assez fort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que puisque vous êtes deux documentaristes, est-ce que le fait d'être deux, c'est une garantie justement quand l'un peut être fasciné, mais pas par plaisir, hein, mais contaminé à force de regarder des images. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit ça, on va pas le montrer parce qu'on ne veut pas rentrer trop dans une logique de fascination. Et si oui, lesquelles?
Vas-y, Raphaël.
On a deux parce que bon, moi j'aime travailler en tandem avec mon frérot, camarade et ami qui est Jean-Pierre. Au-delà de ça, il y a aussi quelque chose de plus pragmatique qui est que lorsqu'on décide d'aller sur des thématiques qui sont lourdes, qui sont pesantes, où il y a énormément de travail de fond qui est effectué, on est moins bête à deux en fait. On est plus efficace à deux. On peut justement se charger chacun en fait d'une partie et ensuite se rejoindre un moment sur des choses. Et puis surtout, il y a des moments de débat entre Jean-Pierre et moi-même, mais des moments de débat où vraiment on se dit effectivement, là ce que tu disais tout à l'heure, effectivement sur l'esthétique, etc. Moi pour ma part, j'aime beaucoup faire passer des messages par l'image. Et souvent Jean-Pierre me dit, attends, peut-être toi tu vois ça, mais la personne qui sera de l'autre côté de l'écran, qui regardera ça, ne comprendra pas. Il faut l'expliquer. Donc voilà, on débat beaucoup, mais au final, on est toujours d'accord parce que ce qui est le plus important dans ce genre de thématique, c'est vraiment de donner les clés à celles qui pourraient, si j'ose dire, tomber dans le panneau. Pourquoi ? Parce que ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, effectivement, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont dans la galère, qui, hélas, qui n'ont plus de relais, ne serait-ce que syndicales, politiques, des endroits où on peut parler, échanger, etc. On se fait sa petite culture politique devant un petit écran de smartphone, et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux. Et évidemment, quand on est déjà découvert au milieu du mois, qu'on galère, etc., et que quelqu'un nous dit, et quelqu'un d'ailleurs qui nous ressemble en plus, qui nous dit, mais en fait, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la personne qui vient d'ailleurs. Bah, évidemment, ça, sur des années, à un moment, ça se sédentarise, idéologiquement parlant, et ça devient vraiment dangereux, très dangereux pour nos sociétés.
Ouais, ça raconte un mépris social de la part des autres, hein, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas d'extrême droite. Il y a tellement à dire sur tout ça, évidemment. Réseaux sociaux, pardon.
Excuse-moi, Jean-Pierre, je relais le chat. Il y a Timorophile qui vous parle de Martin Sandler, comment on dit?
Martin Sandler.
Est-ce que tu peux le décrire en deux mots, le rappeler?
Vas-y, Raphaël, parce qu'il l'a beaucoup suivi, Raphaël.
Martin Sandler, alors lui, c'est un personnage très, très, très singulier garçon, donc qui est autrichien, qui passe beaucoup de temps en Allemagne. C'est quelqu'un qui, en fait, au courant des années 2010, il traîne avec vraiment le dur du dur des néo-nazis autrichiens. Mais il se rend compte que ça ne perce pas, ça ne marche pas. L'Autriche est assez hermétique, en fait, aux actions qu'il mène, etc. Et il regarde en France ce qui se passe. Et là, il voit un groupuscule, une génération identitaire, qui vont sur des mosquées en travaux pour bloquer les travaux, qui font des actions d'agit-prop, etc., etc. Et il se dit, mais en fait, c'est ça. La politique pour les jeunes, pour les faire venir, il faut qu'on fasse des actions, il faut qu'on fasse de l'agit-prop. Et en fait, il va rencontrer les Français de génération identitaire. D'ailleurs, on a retrouvé une vieille interview de lui, parce qu'il est polyglotte, ce garçon. Il parle très bien anglais, très bien français, un peu espagnol, etc. D'ailleurs, il bouge un peu partout dans le monde. Et il réimporte le modus operandi de génération identitaire en Autriche. Et là, ça cartonne. Et en plus de ça, c'est concomitant au début de Twitter, de TikTok, etc. Et là où il fait une véritable explosion sur les réseaux, c'est le jour où sur X, il est relayé par Elon Musk. Alors là, il devient une véritable célébrité. Et ensuite, il se donne un espèce de pseudo-corpus intellectuel parce que effectivement, le concept de rémigration, ça n'est pas lui qui l'a pondu. C'est d'autres penseurs qui ont réfléchi à ça. Toutefois, c'est un des plus actifs sur ce principe de rémigration. Alors, en gros, la rémigration, en fait, qu'est-ce que c'est ?
Attends, Raphaël, juste une seconde, Raphaël. D'abord, je voudrais savoir si tu dois toujours partir dans 9 minutes ou pas. Oui ?
Dans 4 minutes, je vais bouger, ouais.
Alors, dans 4 minutes. Donc, je te pose une question. Après, je vais rester avec Monsieur Canet, Jean-Pierre. Timorophile te disait, je t'en prie, dans le chat, que la place que vous accordez à ce bonhomme, là, ce Martin Sandler, lui semble pléthorique avec le moment gênant où le chercheur, devant le décrypter, dit son admiration. Est-ce que...
D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Il ne dit pas du tout son admiration, il dit quelles sont ses qualités. Vas-y, Raphaël, tu sais, c'est les qualités.
Alors, pour parler très clairement, je n'admire absolument pas Martin Sandler.
Non, bien sûr.
Le chercheur, en fait.
Le chercheur, pas toi, le chercheur.
Non, mais parce que...
Iofunke, lorsque Iofunke, en fait, trace le portrait de Sandler.
Alors... Mais parce que, en fait, alors, Iofunke, c'est quelqu'un, alors déjà, c'est un grand politiste allemand, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit depuis très longtemps à ces questions. En fait, il reconnaît, en fait, le brio politique, mais ça ne veut pas dire qu'il adoube ce que Martin Sellner fait ou qu'il est
fatigué. Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui analysent les objets politiques, qui font 4 pas en arrière et qui, objectivement, disent. Effectivement, cette manière de faire de la politique, cette manière de porter une idéologie dans des endroits où la politique n'avait plus lieu d'être, en l'occurrence chez les jeunes, où clairement, effectivement, l'idéologie, la politique, les questions sociétales, etc., hélas, parfois, certaines personnes qui sont tout le temps sur le web, ça ne les intéresse pas. Funke dit, voilà, ce mec-là a été dans ces endroits-là, il a touché ses cibles, et de fait, aujourd'hui, il a des dizaines de milliers de fans, et je dis bien fans, hein, c'est des fans, qui peuvent, à un certain moment, passer le Rubicon, devenir militant, et passer ensuite un autre Rubicon, passer à l'acte, et là, ça, c'est le cas de Brendan Tarrant.
Oui, c'est ça. Et puis, je crois que ce qu'il faut quand même dire, on a souvent eu ces débats, David, depuis toutes ces années, là, où, quand on bossait ensemble, et puis ensuite, c'est quel est le degré. Encore une fois, ça revient à la question du suivi, par exemple, de la manifestation de Christiane Clark. Nous, avec Raphaël, nous pensons qu'il faut appeler un chat, et qu'il faut montrer aux gens ce que c'est qu'un Martin Sellner. Et quand on a la chance d'avoir un Iofunke, qui est donc le politiste qu'on interviewe, qui est très clair dans ce... Iofunke, c'est un grand combattant anti-nazi.
Bien sûr, bien sûr.
Et qui connaît ça parfaitement. En fait, Iofunke, il dresse le portrait express de Sellner pour montrer à quel point il est redoutablement dangereux, car intelligent, car cultivé, car polyglotte, car inventeur en Allemagne d'un espèce de nazi cool. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéologie, le corpus idéologique néo-nazi, ou en tout cas ultra-violent fasciste qui tourne autour, il s'est redéfini comme une espèce d'attitude à la cool. C'est-à-dire que c'est plus nous les méchants, nous, on défend l'identité. Ça, il faut bien le comprendre, c'est très important. Dans les années 70, l'extrême droite, et notamment sous l'impulsion d'un penseur d'extrême droite français qui s'appelle Alain de Benoist, a revu entièrement son disque dur. On en parle d'ailleurs vite fait, mais quand même un peu dans notre série Le Pen. Au lieu d'être l'héritière d'un impérialisme colonial, etc., après l'Allemagne nazie, ça n'était plus possible d'être dans cette posture. Donc, qu'a fait l'extrême droite? Elle s'est dit, on ne peut plus être les dominants. On va être les victimes. Donc, on est les victimes de flots de migrants qui viennent nous envahir. Bien sûr, on avait juste oublié qu'on les faisait venir pour bosser et qu'on les avait colonisés pendant 100 ou 200 ans pour certains. Donc, on n'est plus les dominants, nous sommes les victimes. Et à partir du moment où vous êtes les victimes, vous développez une politique de victimes et vous vous faites passer pour les victimes. Martin Sellner a parfaitement compris ça. Il a le charme, il a le talent pour retourner des cerveaux. C'est bien pour ça que nous, en tant que documentaristes, on est tenus de montrer et d'expliquer en quoi c'est dangereux. Nous, on prend le parti de faire confiance à l'intelligence des gens qui vont regarder le film et qui vont se dire « Ah oui, d'accord, j'ai affaire à ça ». On s'est beaucoup interrogé avec Raphaël sur le degré de temps qu'on devait lui accorder pour développer la remigration. À partir de quand ça devient vraiment obscène? À partir de quand il faut le faire, il faut le couper? Mais ça, on a passé des jours entiers là-dessus. Donc oui, on se prend beaucoup la tête sur toutes ces questions. Et c'est mieux d'être deux, effectivement, voire d'être trois avec la monteuse, qui est Soline, qui nous a énormément aidés sur tout ça. Et puis aussi, petit hommage aussi à notre enquêtrice, Anouk Durocher, qui nous a beaucoup aidés aussi. On essaye de faire d'être un peu moins bête à plusieurs, voilà. Mais on n'a jamais la recette magique, hein, clairement.
On doit libérer Raphaël qui a des obligations, je crois.
Juste pour conclure, oui. De Sellner et qui renvoie justement à une question que tu disais par rapport au look, à l'esthétique, etc. C'est qu'en fait, un type comme Sellner, la manière dont il est présenté dans les JT autrichiens ou allemands, il est présenté comme un hipster d'extrême droite. C'est quand même assez singulier quand même. Et il a tout à fait compris qu'évidemment, cet objet politique qu'il représente doit être accepté par le plus grand prisme possible. Quand on va le tourner dans un camping au fin fond de la Thuringe où il va parler, il y a des gens qui sont avec des petits pulls sur les épaules, des classes moyennes, des gens qui sont des patrons de PME, etc., qui sont a priori pas des skinheads. C'est des personnes qui sont effectivement dans cette dynamique où évidemment, bon, clairement, ils votent extrême droite, mais ça n'est pas des skinheads. C'est ça le truc. Et d'une certaine manière, en adoucissant et en affaiblissant.
Ah, allô, allô.
Le principe du réglage. Vraiment, je vous invite à. Allô, allô.
Oui.
Ah, allô. On a été coupé.
Non, c'est bon, on t'entend maintenant.
Ah, pardon. C'est bon.
Juste, si vous avez du temps à perdre, faites hashtag rémigration sur X. Vous allez voir la masse de bancs qui va sortir. C'est terrifiant. Donc voilà, sur ces beaux mots terrifiants, je suis vraiment. Il faut que j'aille chercher mes enfants.
Merci beaucoup. Bravo pour le documentaire. Et c'était très agréable de converser avec toi et de voir les interrogations du chat. Vous ont également traversé. À bientôt. Un de ces jours, quand tu passes dans les parages. On va rester avec Canet Jean-Pierre. On va le cuisiner là, parce que c'est bon là. C'est bon là, je le connais, le Canet, moi. Mon cher Jean-Pierre, on va continuer. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la partie allemande. Et j'aimerais qu'on en parle deux minutes. D'abord, l'AFD, vous m'avez appris, mais visiblement pour le chat, vous avez rappelé que, en fait, au départ, c'est pas un parti d'extrême droite, c'est pas un parti nazi, c'est plutôt un parti libéral. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est économiquement. Enfin, il y a plusieurs courants économiques au sein de l'AFD. Je ne veux pas faire comme si j'étais un spécialiste de l'AFD. Je ne le suis pas. Mais en revanche, ça ne naît pas sur une impulsion politique d'extrême droite. C'est sous l'impulsion de ces dire. Il y a quand même un ultra-conservatisme de vision sociétale et effectivement une vision libérale et au sens économique du terme, voire ultra-libérale. Donc ça, quand même, on n'est pas du tout à gauche. On est clairement dans une droite dure. Où il y a une vraie, on assume la violence sociale de l'économie. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Björn Höcke qui va. Alors, vous savez que l'AFD est dirigée aujourd'hui par Alice Weidel, qui est une femme qui est engagée en politique depuis pas mal d'années. Et Alice Weidel, on va dire qu'elle représente, la branche un peu moins radicale que l'autre, qui est celle de Björn Höcke. Björn Höcke. C'est un historien d'ailleurs à la base, c'est pour ça que quand il utilise l'expression Alles für Deutschland, tout pour l'Allemagne, il sait très bien à quoi il fait référence, parce que lui aussi l'a fait. Björn Höcke, lui, clairement, il va comprendre le mouvement du monde. D'abord, il a lui-même des idées radicales d'extrême droite, il est très hostile à l'immigration, il va comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Donc là, je fais un petit pas de côté pour celles et ceux qui n'ont pas lu Les Ingénieurs du Chaos de Giulio Domopoli, il est temps de le faire, c'est très important. Et j'ajouterai Apocalypse Nerds également, d'Olivier Teschi.
Nous avons déjà reçu, tu penses bien.
Bien entendu. Parce que les réseaux sociaux, évidemment, vont jouer un rôle. En gros, il y a celles et ceux qui comprennent comment ça fonctionne et celles et ceux qui ne comprennent pas. Björn Höcke a parfaitement compris leur fonctionnement. Et il va donc radicaliser son discours. Il va comprendre que l'immigration devient un sujet mûr, entre guillemets, en Allemagne. Alors, notamment, pourquoi? Pourquoi? Parce que Angela Merkel, l'ancienne chancelière, en 2015, décide un accueil massif des réfugiés syriens pendant la guerre de Syrie. Et elle va tendre la main à ce million, enfin, je sais plus combien ils étaient, mais très nombreux, qui va donc, d'ailleurs, au début, montrer une Allemagne extrêmement généreuse, au bon sens du terme, politiquement. Alors, bien sûr, il y a toujours l'intérêt économique là derrière, mais enfin, c'était un acte très fort. Et ça a provoqué un backlash, notamment à l'extrême droite. Ça a été vécu comme l'invasion migratoire, évidemment. Björn Höcke va parfaitement récupérer cette affaire-là. Il va entraîner l'AFD vers un discours extrémiste. Et à mesure, ça c'est ce qu'on montre dans le documentaire, à mesure que le discours se radicalise, devient haineux, devient un discours de rejet, avec un discours qui aboutit à ce concept de remigration. Donc on prend tous les migrants, on les met à l'extérieur, on les renvoie chez eux, ou alors, et ça va jusqu'au d'ailleurs aux Allemands racisés qu'il faut renvoyer chez eux, on ne sait pas où c'est chez eux, hein, entre nous. Donc c'est un discours qui va chercher sur la base des lois raciales nazies, il faut le dire, hein, clairement. Donc Bernanke va réussir son coup parfaitement, et va propulser l'AFD au top 2 des partis politiques allemands. Alors, les autres ont suivi, hein. Lise Wedel a parfaitement suivi le mouvement, et les cadres de l'AFD ont parfaitement suivi le mouvement.
Voilà. Jusqu'au moment où on arrive dans votre documentaire, dans le premier épisode, où on vous avait mis en vis-à-vis les résultats électoraux de l'AFD, qui font comme ça, qui montent, quoi, et les violences qui montent en même temps.
Ouais, terrorisme et violence, ouais. Actes racistes notamment. Ouais.
Voilà.
Ben oui, alors ça c'est évidemment, hein, c'est périlleux d'aller là-dessus. Vous imaginez bien qu'il y a un moment ou un autre, quelqu'un de l'AFD va s'en apercevoir et va nous dire, mais c'est, enfin, va dire que c'est scandaleux. Mais en vrai, on a travaillé minutieusement sur ces situations-là, la montée, la radicalisation des propos et surtout le succès électoral de l'AFD régionalement, nationalement, et effectivement les actes racistes, les actes terroristes. Il y a une corrélation évidente qui est validée par un certain nombre de politistes et de chercheurs, dont celui qu'on interview, on vous en a déjà parlé, Ayo Funke, qui est un grand spécialiste de la question. Donc oui, il y a une corrélation, mais c'est bien pour ça d'ailleurs que quand on est un leader politique et que les mots peuvent tuer, clairement, il faut savoir qu'en Allemagne, fais-moi penser David, qu'il faut que je réagisse à un truc que j'ai vu passer tout à l'heure concernant les classes sociales en Allemagne versus les classes en France, c'est important. En Allemagne, il y a beaucoup de violence contre les élus. Il y a énormément de violence contre les élus. Le creuset sociologique allemand, c'est pas le même que la France. N'oublions pas qu'en Allemagne, il y a eu l'Allemagne de l'Est et qu'on est passé d'une dictature communiste à l'ultralibéralisme, au libéralisme puissant de l'Occident sans transition. Le travail sur le passé nazi a certes été fait quand même sous la période communiste en Allemagne de l'Est. En revanche, la tradition démocratique, on l'a un peu laissé de côté, hein, c'est un euphémisme. Et donc tout ce travail-là...
Vous écrivez les commentaires aussi, monsieur Cadet. Vous avez du talent.
Non, ça m'arrive, j'ai été à bonne école. Cette transition en fait mentale entre le bloc communiste et le monde occidental, quand même ultralibéral, de plus en plus ultralibéral en plus dans les années qui ont suivi la fin du bloc communiste, bah ça a pas permis en fait un travail serein sur les enseignements de l'Allemagne nazie. Et c'est en ça que j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Je disais ouais, les intellos de gauche. Alors déjà, moi je suis pas un intello de gauche. Hein. Vous dites souvent ouais, c'est les classes sociales. Les classes sociales sont méprisées. Les classes populaires et prolo notamment ont été abandonnées, et voilà, c'est ça l'explication. Alors moi, ça, je pense que c'est vrai notamment en France. Ce que pointait le commentaire, c'était que c'était surtout les classes moyennes qui étaient abandonnées. C'est vrai en France. En Allemagne, il y a vraiment des classes défavorisées populaires qui sont fortement touchées par le chômage en ex-Allemagne de l'Est, qui sont vraiment la chair à canon de l'extrême droite. C'est pas la même chose qu'en France. Je tiens à le dire, c'est important. Voilà. C'est pas la même situation. Donc, Bjørnøkke, il a parfaitement joué là-dessus. Il a su parler à ces gens. Il a su répondre à cet abandon, à ce taux de chômage important, et en s'appuyant sur un truc tout bête, hein, une supposée invasion migratoire quand l'Allemagne a décidé d'être généreuse et d'accueillir des gens qui n'avaient plus aucun endroit où aller, dû à une politique américaine impérialiste, rappelons-le.
Je te propose qu'on regarde le dernier extrait, il dure une minute. Cette fois-ci, on va revenir en France et on se reparle juste après. C'est l'introduction du deuxième épisode, je ne sais pas s'il faut dire épisode comme deuxième film en fait, voilà, tout simplement. C'est le début. Hop, 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 attends que je mette ça tranquillos, voilà, C'est parti.
Ouais.
Ah, on m'entend plus. On m'entendait plus, excusez-moi. Voilà, pardon. Non, je disais, voilà, c'est le hook, c'est le début du deuxième film. Donc évidemment, il faut prendre le spectateur, l'accrocher comme ça. Il faut pas qu'il parte. Tout le reste du documentaire n'est pas exactement sur cette tonalité, avec une musique, avec une scénographie qui est particulièrement efficace, on va dire. Et d'autant plus que, en fait, on va découvrir juste après. Avec le témoignage de ce jeune homme, on va découvrir qu'il est donc un repenti que vous avez retrouvé avec ton camarade de jeu Raphaël. On va découvrir que cet homme a eu une enfance terrible. Il a subi une maltraitance qui va assez loin, dont il vous parle. Ça ne justifie évidemment rien, mais enfin, ça explique certaines choses, quoi. Voilà. J'ai repris le début. Donc là, on revient en France, et il y a un nom qui n'a pas été donné jusqu'ici dans notre causerie et qui revient très souvent, en revanche, dans vos films, c'est Renaud Camus. Alors, on a parlé de Rémigration, vous avez un peu parlé de Grand Remplacement, c'est lui le théoricien du Grand Remplacement. Ma question est-ce que Renaud Camus a vraiment l'influence que vous lui prêtez, ou est-ce que c'est une vision franco-française de l'extrême droite? Ou est-ce que vraiment tu considères que la pensée de Renaud Camus, donc grosso modo la théorie du grand remplacement, a vraiment irrigué le monde entier nazi?
C'est une excellente question, à mon avis fondamentale. Juste une toute petite parenthèse sur le début. On a délibérément voulu montrer ce que c'était que la violence physique ressentie par donc ce jeune homme qui est un repenti, hein, et qui a fait un effort, un travail sur lui considérable pour mettre des mots sur ce qui lui est arrivé. Il le dit lui-même, il n'est pas complètement encore revenu de tout ça, mais il a dû dire
5%.
80, ouais, c'est ça, il reste. Parce que quand on est formaté à quelque chose, il est difficile d'en sortir, mais en tout cas, il a fait le travail, il a lu beaucoup en prison. Et pas que, il fait voir des psys, il fait ce travail et il essaye de mettre des mots, le langage c'est la pensée, hein. Il essaye de mettre des mots sur ce qui lui est arrivé, et il faut saluer ce travail, parce que c'est un cas d'école très intéressant. J'y reviendrai après, je vais répondre à...
Et il est d'ailleurs plutôt articulé, enfin je veux dire, il a une réflexion, quoi.
Clairement.
Même si là, on le voit en train de taper sur un arbre, bon, ce qui ne sert à rien quand même. Enfin,
je le redis, ce qu'on a voulu signifier avec ces scènes-là, c'est la rage, c'est la colère, la rage qu'il y a en eux, parce qu'il en parle de ça, il dit à un moment donné, ça me bouffait. Cette rage et cette colère, elle vient bien de quelque part, elle vient de se passer. Quand on dit ça, on n'excuse rien. Hein.
Bien sûr.
On est en train d'expliquer, voilà. Elle vient de se passer très probablement d'une enfance complètement cataclysmique, avec des violences du beau-père, de violences multiples aussi quand il a été placé dans différentes familles et autres. Bref, c'est une enfance vraiment dévastée. Ça me fait penser au bouquin d'Edouard Bunker, La bête au ventre, que vous avez peut-être lu, que je vous conseille de lire, et qui vient chercher les questions sur le déterminisme, hein, à quel point sommes-nous déterminés dans la vie quand on part mal. Vraie question. Et j'en viens à ta question sur le grand remplacement. Alors oui, clairement, Renaud Camus. Bon, moi je peux vous répondre que ce qu'on a constaté nous, hein, en travaillant à la fois sur les réseaux internationaux, les terroristes qui sont passés à l'acte, dont les plus célèbres comme Brenton Tarrant par exemple, le meurtrier qui a tué une cinquantaine de musulmans en Nouvelle-Zélande, qui est un des héros. On parlait des points communs avec les djihadistes. Il y a des martyrs, hein, chez les terroristes.
Et ils sont bien, bien sûr.
C'est des saints. Hein, vraiment, c'est comme ça qu'ils sont vécus. Donc l'international terroriste d'extrême droite ou potentiellement terroriste d'extrême droite, ultra-violente, considère Le Grand Remplacement comme, enfin, c'est un bouquin, enfin, un corpus, une qualification idéologique qui est centrale de ce que nous avons pu nous constater dans la manière de voir le monde que ces gens ont. Donc, Renaud Camus a une responsabilité intellectuelle très importante sur tout ça. D'ailleurs, les manifestants de Charlottesville, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils crient? Ils crient « You will not replace us », « Vous n'allez pas nous remplacer ». C'est un cri du cœur, international, multilingue, et oui, c'est central, vraiment. C'est facile à comprendre, hein. C'est un concept dramatiquement génial. C'est hyper simple. C'est hyper simple, c'est simpliste, ça marche, c'est parfait. Ça vient remplir une petite case dans le cerveau, c'est parfait. Ça vient qualifier une haine.
Alors, le gars qu'on vient d'entendre, que vous pourrez découvrir dans la partie 2 de Terrorisme d'ultra-droite, il a fait partie de... Il est passé d'un groupe à l'autre, il est passé d'un groupe de hooligans à d'autres, il a prêté main forte à certains groupes, il a fait partie des Zouaves, hein, qui ont à une époque défrayé la
Marc de Cacré,
oui. Oui, voilà. Vous faites parler un policier qui vous dit que, ou plus exactement, vous expliquez que c'est une des peurs, des craintes des services de police et de renseignement dans le monde entier, c'est que ces gens-là passent d'un groupe à l'autre. Et que, en fait, il y a une forme de mobilité. Donc voilà, c'était pour dire que vous annoncez ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cet ex-zouave, ex-hooligan de Strasbourg et d'ailleurs vous a parlé? Pas comment vous l'avez convaincu, parce que ça, on connaît ton talent, on connaît votre talent, mais pourquoi il vous a parlé finalement?
Alors, je crois. C'est une bonne question. Je crois que s'il nous parle, je crois que ça fait partie de son travail de nous
parler.
C'est ça. Mmh. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule raison. Je crois qu'il commence à... Clairement, il y a une volonté de témoigner, parce que je pense que ça fait partie de sa thérapie, entre guillemets, c'est-à-dire de l'outer publiquement, de le mettre sur la place publique, tout en se protégeant physiquement, parce que sinon il ne trouvera pas de travail. Voilà, enfin, c'est une évidence, il faut qu'on fasse attention aussi à protéger son identité de ce point de vue-là. Mais je crois qu'il y a une double raison. Il y a effectivement ce travail probablement thérapeutique et quelque part de le figer quelque part dans un média pour ne pas revenir en arrière, peut-être. Ça peut être une explication. Et je crois aussi que, même s'il ne le formule pas comme ça, je crois qu'il veut quand même faire passer un message en disant c'est une impasse. Moi, je me souviens, à un moment, on l'a interviewé pendant 4 heures. À un moment donné, il nous dit, mais la rage, elle me mangeait, elle me rongeait, elle me détruisait, elle m'a fatigué, elle m'a mise à plat. Je crois que c'était aussi un message qu'il tentait de faire passer. Je crois que ça fait avant tout partie de sa thérapie.
Alors, il ne s'agit pas, ça fait déjà une heure et demie qu'on converse, il ne s'agit pas de te faire tout raconter de vos deux films, mais plutôt de donner envie, j'espère, de les regarder. Je voudrais juste évoquer un dernier point avec toi, avant de te parler d'un vieil ami à toi qui s'appelle Bolloré Vincent.
Voilà, pas révisé, hein. Attention.
Non, mais t'inquiète. Il y a un autre passage glaçant, ça se passe en Suède, ce sont les enfants. Et je vois que dans le chat sur YouTube, quelqu'un explique un État qui s'occupe pas, l'État qui ne s'occupe pas des enfants, c'est de la violence. Eh bien, justement, alors là, vous nous rendez compte de gamins, d'enfants de 9 à 12 ans, ouais, qui se radicalisent. Vous montrez des cahiers avec des croix gammées, etc. Qu'est-ce que cette enfant suédoise nous raconte? Et qu'est-ce que vous voulez nous dire en montrant ça? Donc, c'est vraiment des enfants. Hein.
Oui, eh ben, elle nous raconte. Là, je crois qu'il faut être conscient du problème lié aux réseaux sociaux, à l'accès à du contenu, et à, notamment pour des enfants qui peuvent être livrés eux-mêmes chez eux. Bon, ça rejoint un peu, quelque part, les interrogations que pose, ou les questionnements que pose la série adolescente, par exemple. qui montre à quel point on peut être laissé à l'abandon quand on arrive vers 9-10 ans, on est en préadolescence bientôt, qu'on commence à s'éveiller à la vie en société. Et donc, ce que ça raconte, c'est d'abord ça, c'est-à-dire que des enfants laissés, même si les parents essayent de s'en occuper, il y a toute une vie parallèle qui se développe sur les réseaux. Et surtout, je crois que la banalisation du discours d'extrême droite, de la violence d'extrême droite, qui s'explique de multiples façons, elle touche les jeunes cerveaux par un biais parfois indirect. Ça peut être le gaming, par exemple. Ça peut être le sport. Tous ces axes qui, en plus de ça, viennent s'ajouter. Enfin, ce qui vient s'ajouter à ça, c'est aussi la grande révolution en cours des rapports hommes-femmes, enfin, où les hommes doivent s'interroger considérablement sur leur place et sur leur comportement, sur le patriarcat qui traîne. Évidemment, tout ça est post-MeToo. Mais ça touche pas seulement les ados et les adultes, ça touche aussi les pré-ados. Et comment un petit gars va se positionner dans sa masculinité, comment il va se positionner dans sa construction de jeune homme. Ça interroge tout ça. Et quand vous avez affaire à des pré-ados qui sont livrés à eux-mêmes et qui ont accès à du contenu ultra-violent sans contrôle, ce qui est le cas de notre société aujourd'hui, ça donne des radicalisations qui se font à 12-13 ans, ouais, même un peu plus jeune parfois. La Suède est un vieux pays concernant le retour du néonazisme. C'est un des premiers pays, voire le premier en Europe, qui a vraiment connu un phénomène fort, parce qu'il y a quelques idéologues, notamment celui qu'on interviewe par Auberg, qui ont œuvré tôt. Alors pourquoi je ne saurais pas vous le dire, sincèrement, on n'a pas trop travaillé là-dessus. Par contre, c'est un des premiers pays qui a vu ce phénomène revenir avant l'Allemagne, par exemple. Donc voilà.
Dans le documentaire, vous interviewez un certain nombre de personnes qui ont été menacées de mort. Il y a notamment cette personne en Allemagne qui est obligée c'est un élu qui est obligé de se balader en voiture blindée. Enfin, c'est quand même complètement sidérant. Est-ce que
le Bundestag, quand même, il est vice-président du Bundestag. Hein. C'est un des leaders de Die Linke, donc la gauche radicale allemande. Et c'est quand même un des vice-présidents du Bundestag. C'est pas n'importe qui, quoi. Enfin, il y a des menaces permanentes sur lui.
Et Veuve Chico, l'extraordinaire Veuve Chico dans le chat, qui prend toujours soin de tout le monde, s'inquiète pour vous.
Alors, merci déjà. oui, c'est risqué de travailler là-dessus. On va pas crier avant d'avoir mal. Il est important que nous faisions notre métier de la manière la plus sérieuse possible. Et c'est pour ça que j'évite de partir sur des tirades politiques. C'est pas mon rôle. Nous, notre rôle, c'est les faits et d'essayer de leur donner une compréhension. Je crois que dans ces temps, d'abord, quand on fait de l'enquête, il faut dans un temps normal, je dirais il y a 10-15 ans, quand on fait de l'enquête, il faut accepter le rapport de force, il faut accepter qu'on puisse prendre des coups. Voilà, ça fait partie du jeu. En revanche, oui, nous sommes arrivés dans une période extrêmement dangereuse où il faut faire attention, clairement. Il faut faire attention à beaucoup de choses, donc je vais pas évidemment pas vous dire ici non. À quoi je fais attention, sinon je donnerai quelques billes. Mais oui, il faut faire attention. Il faut ni crier avant d'avoir mal, ni tomber dans la paranoïa, mais il faut être un peu quand même sur ses gardes. Et en revanche, et ça rebouclera avec ce qu'on s'est dit au tout début, il ne faut pas céder à la peur. C'est exactement le moment où il ne faut pas céder à la peur. Il faut au contraire réaffirmer les informations, les faits, la réalité, parce que c'est très important. D'abord, ça donne du courage à d'autres, et on se donne du courage entre nous, toutes et tous, je ne parle pas seulement des journalistes, celles et ceux qui pointent et qui tentent de montrer en quoi cette dérive d'extrême droite, au sens large du terme, est une impasse absolue et une marche forcée vers la barbarie. Voilà, très simplement, il faut être à la hauteur des enjeux de l'époque, il faut essayer en tout cas.
Vous voyez le brio du réalisateur, car l'effet de boucle, c'est un des procédés les plus efficaces. Hein, on boucle, on revient au début, on peut terminer son film comme ça, et généralement ça marche bien. C'est pas ce qu'ils ont fait là, mais bon voilà. Ça me permet de déboucler et de passer à tout à fait autre chose. J'ai juste une seule question. Je m'adresse là à l'auteur, au co-auteur du livre Vincent Tout-Puissant, paru au Jean-Claude Lattès en 2018, où tu travaillais avec un camarade de jeu concernant Vincent Bolloré. Bolloré qui vous avait réclamé jusqu'à 700 000 euros.
Nicolas Vescovacci, il s'appelle.
Voilà, c'est ça. Ouais. Tu bosses qu'avec des Italiens, toi, en fait.
Absolument, ouais, ouais. Des Corses, en l'occurrence.
Corses, ok. Bon, bref. On a appris ce matin, cet après-midi, que Vincent Bolloré était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption d'agents publics étrangers au Togo. La justice le soupçonne son groupe, le groupe Bolloré, d'avoir conseillé à moindre coût les campagnes de d'Alpha Condé et de Faure. Alors j'ai peur d'écorcher son nom. Voilà, candidat victorieux respectivement à la présidence de Guinée en 2010 et du Togo, en échange de la gestion de leurs ports principaux. Est-ce que tu veux faire une déclaration là-dessus ou est-ce que tu ne peux pas en faire? Je ne sais plus dans quelle situation tu es par rapport à Vincent Bolloré, en fait.
Non, il y a aucun problème. Là, c'est vraiment juste que j'ai pas travaillé le sujet ces deux dernières années, donc je vais éviter de raconter des bêtises. Non, alors moi, je suis totalement libre pour parler de Vincent Bolloré. En l'occurrence, j'ai pas spécialement étudié cette condamnation, tout simplement parce que j'étais.
Ah, c'est pas une condamnation. Oh là là. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Devant le tribunal. Pardonne-moi. Tu vois, je suis même pas au courant des faits. Donc, on le redit, renvoyé devant le tribunal correctionnel. Mais en tout cas, c'est une vieille histoire.
C'est ça.
Des multiples vieilles histoires qui sont liées à la destinée de Vincent Bolloré, mais tu vas me permettre une petite pirouette. Je vais donner mon joker pour donner un point de vue très précis sur cette affaire, parce que comme vous pouvez le constater, je n'ai pas spécialement travaillé sur ce renvoi. En revanche, rappelons quand même que quand nous dénoncions la montée en puissance de Vincent Bolloré dans ce livre en 2018, mais déjà avant, quand on était à Canal+, à travers ce qui s'était passé sur notre enquête sur le Crédit Mutuel, eh bien nous avions essayé d'expliquer avec d'autres, mais à l'époque on était un peu minoritaire, on était d'ailleurs venu l'exprimer auprès de toi David et d'autres médias quand même. On avait dit attention, on a affaire là à une montée en puissance d'un corpus entrepreneurial qui est idéologiquement chargé et qui a un agenda politique. La sous-estimation a été réelle. Vincent Bolloré joue un rôle absolument fondamental dans la montée en puissance de l'extrême droite en France et c'est un énorme problème. Et ça participe sans doute aussi d'ailleurs à la peur des autres médias, puisque non seulement son groupe, ou son empire, possède beaucoup de médias influents, mais en plus de ça, fixe le tempo, c'est-à-dire décide de ce qui doit être traité ou pas. Donc c'est aussi un énorme problème pour ça, vis-à-vis de la montée de l'extrême droite en France. Vincent Bolloré.
Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre. J'espère que tu as passé un bon moment. Ultime question, rituel, est-ce que tu as une recommandation à nous faire, une recommandation culturelle? Ça peut être un disque, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film, ça peut être un vieux machin. Alors, tu as déjà conseillé trois trucs, tu me diras là. Voilà, est-ce que tu as quelque chose en tête?
Non, alors vous allez me trouver très obsessionnel, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal le nez, moi, dans le Apocalypse Nerds, par exemple, d'Olivier Tesquet, on en a déjà parlé tout à l'heure, et d'Anastasia Djadji, sa co-autrice, ne l'oublions pas, brillante. Pardon, c'est pas très original, mais il se trouve que j'ai le nez dedans en ce moment. Arnaud Miranda, Les Lumières Sombres, c'est indispensable. En fait, il y a quelques bouquins à lire quand même pour comprendre ce qui nous arrive. J'ai parlé de Julian Odompoli tout à l'heure, Les Ingénieurs du Chaos, mais dans la continuité, il faut lire, au moins, en tout cas, les journalistes ou chercheurs français qui travaillent sur tout ça. Il y a toute une cohorte d'auteurs anglo-saxons aussi, mais déjà les Français, c'est intéressant. Arnaud Miranda, Les Lumières Sombres, il faut absolument le lire, c'est très important pour comprendre le monde dans lequel on est, et vous pourrez d'ailleurs tracer des ponts entre ce dont on vient de parler, la violence d'extrême droite terroriste, et les différentes idéologies qui sont à l'œuvre aujourd'hui, avec cette volonté quand même d'un État américain qui est hacké par les big tech et qui veut mettre à plat la démocratie européenne quand même. Alors certes, il faut la réformer, elle est mal en point et elle est un peu malade, mais du coup, au lieu de la battre, il faut la soigner. Donc oui, je pense qu'il est urgent de lire ces livres. Il faut lire Les Lumières Sombres d'Arnaud Miranda, il faut lire Apocalypse Nord, c'est très important. Et puis Asma Mala aussi, hein, qui donne Asma Mala, elle donne une vision un peu plus philosophico-politique, c'est un peu plus Oui, c'est plus philosophique, mais c'est très, tout ça se complète très bien.
Merci docteur, soignons la démocratie. Merci, voilà, merci à toi Jean-Pierre, et encore bravo. Merci. Et continue, continue, t'es un bon gars, continue. Merci beaucoup Jean-Pierre.
On fait ce qu'on peut, à bientôt.
Salut à tous. Ouais. Mais comme disait Jacques Brel, mais il y a la manière. Et tu as la manière.
Tu raccroches ou pas?
Oui, tu vas raccrocher. Merci. Mais je te parle de Jacques Brel, donc tu écoutes, s'il te plaît, merde. On fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Et vous avez la manière. Merci, Jean-Pierre.
Eh bien, merci. Ça nous touche beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.
Ouais, ciao. Salut. Voilà, les amis. C'était top, nous dit Guimouze. Bah, écoute, merci, merci beaucoup. J'avoue que moi, je suis claqué. Je suis claqué parce que des matinales, des émissions le soir, le truc, le machin. Et d'ailleurs, je voudrais parler avec vous d'un truc, c'est que en fait, merci aux invités, évidemment, merci beaucoup. Je vous invite vraiment à aller voir les deux parties, les deux documentaires. Voilà, ça vaut le coup. Vous retrouverez d'ailleurs la voix de Christophe Bouquet qui était venu également il y a quelques jours au poste pour parler de son travail sur les narcotrafics. Il fait quelques voix dans le voilà, tout ça est un petit monde qui essaie d'avancer groupé. Alors super, on en redemande, mais alors justement le problème c'est que j'ai pas d'invité pour demain, figurez-vous. Voilà ce qui se passe. J'ai essayé de joindre tout un tas de gens, donc je ne vous dis pas qui, parce que ce serait désobligeant, puisqu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas voulu, etc. Alors, s'il y avait engueulade, je vous le dirais, mais là, c'est pas des engueulades. Les candidats, demain, c'est leur dernier jour, et ils ont un peu autre chose à faire que de venir au poste. Bon, bah ça se comprend. Et puis les autres, ils sont un peu claqués. Alors, qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on fait une petite émission comme ça au débotté pour discuter entre nous? Un tech mille à l'ancienne, une causerie à l'ancienne, ou est-ce qu'on dort? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous savez quoi? C'est Uriel qui va décider. Voilà. Uriel, qu'est-ce qu'on fait demain? J'ai pas d'invité. On n'a pas d'invité demain matin. Les documentaires, ils sont sur Arte. Voilà, ils sont disponibles sur le site d'Arte, voilà. Une messe du vendredi. Une petite pause. Reposez-vous, nous dit Merlink. Une petite matinale, s'il te plaît, Uriel. Merde, mais peut-être qu'Uriel, on a une table à 9h. Absolument, elle a raison. Il y a une émission de Mathilde Larère qui va être passionnante sur la guerre d'Espagne. No pasarán. Puisque nous célébrons les 90 ans de la guerre d'Espagne. Donc ça veut dire que en fait je suis emmerdé par rapport aux gens de ce matin à qui j'ai dit à demain matin. Voilà, c'est ça qui m'embête. Alors est-ce qu'on vient juste sur le chat? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah écoutez, vous savez quoi, nous allons discuter sur le canal secret avec Uriel sur le Discord. Non, repos, ouais, c'est ça, reposez-vous, c'est pas grave, ok. Allez, on se repose, ouais, je pense que c'est bien parce que Uriel aussi, elle a beaucoup, beaucoup donné, il y avait beaucoup, beaucoup de monde lors de ces matinales. Il y a la question de est-ce qu'on développe ces matinales notamment en vue des élections de 2027. Uriel m'a provoqué tout à l'heure, elle m'a dit ouais, live 24h/24. Non. Voilà. Alors lundi, il y aura évidemment, la matinale, il y aura France des Terres. Mardi soir à 18h. Attends, bah je vais vous mettre ça. Mardi soir à 18h. Surtout que là, on a beaucoup de vignettes, donc on a pu mettre beaucoup de choses en place. Hop, tiens, voilà, regarde. Les convocations. Hop. Donc je pense qu'on va annuler demain matin la matinale, voilà, tranquillement. Demain à 9h, No Pasarán, que reste-t-il de la guerre d'Espagne 90 ans plus tard, avec Mercedes Yusta Rodrigo et Pierre Salmon, interviewé par Mathilde Larère. Lundi, c'est pas indiqué, mais on fera France des Terres à 7h, évidemment, comme tous les lundis. Mardi, municipal, les scores de l'extrême droite dans le viseur, ce sera à 18h extrêmement rama avec Nicolas Lebourg, Marion Jacquet-Vaillant, Sylvain Crépon et Emilien Warvial. Ça risque d'être top. Le 25, anti-féminisme, c'est le grand retour de Nora Boisouni qui sera entourée de Mathéa Boudinet, de Céline Extenso, de Célia Boucher. Voilà. En fait, vu le nombre d'émissions qu'on vous prépare, c'est vrai que demain, on peut se reposer. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Une émission qui n'est pas annoncée, que nous allons faire en direct de Mel du côté de Niort. Ce sera jeudi prochain pour les 3 ans de Sainte-Soline. On va faire une table ouverte, table ronde dans un café tenu secret pour l'instant de Mel avec les copains des Soulèvements de la Terre pour les 3 ans de Sainte-Soline. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous êtes les bienvenus à la maison, merci beaucoup. Et j'ai pas de 78 tours. Ça va saigner lundi matin, on va voir. Voilà les amis, donc je vous dis, en ce qui me concerne, on se retrouve lundi à 9h. Demain, c'est Mathilde Larère. Et puis venez sur le Discord pour discuter de choses et d'autres, d'Opost, de ce que vous avez pensé de ces matinales à répétition, etc. Et je vous le rappelle une dernière fois, comme à chaque fin d'émission, on a besoin d'être soutenu par vous, d'être soutenu financièrement. Il y a deux possibilités. Soit vous faites un don défiscalisé, soit vous pouvez vous abonner. Ça démarre à 2 euros par mois. Et en étant abonné, vous allez pouvoir voter pour vos émissions préférées, les mettre en avant sur la home, choisir votre player, YouTube, Peertube ou podcast, obtenir un avatar abonné sur le salon Discord, bientôt recevoir une newsletter dédiée et autres joyeusetés. Voilà, ça se passe ici. Je m'abonne et depuis hier, il y a différents modes de paiement. Jusqu'ici, il n'y avait que la carte bancaire. Là, il y en a d'autres. Je vous laisse découvrir tout ça, quoi. Voilà. Demain, 9h exactement, Eurial. Lundi, à 9h aussi. Voilà. Si la révolution n'est pas une fête, elle ne vaut pas la peine d'être faite. Et pour la fête, il faut un minimum de repos, nous dit Mr. Coltrane. Merci à toutes et à tous. C'était une sacrée semaine. On a essayé de faire, salut Chris, ça fait longtemps dis donc, j'ai l'impression. J'ai écouté dans le train tous les matins, lundi, mardi, mercredi. Demain, c'est le printemps. Ah bon? Très bien. Impeccable. Les amis, j'envoie les crédits. Merci à vous toutes, à vous tous. Je vous le rappelle, il faut soutenir la presse indépendante. Et si vous n'avez pas entendu François Bonnet ce matin, le patron du Fonds pour une presse libre, je vous invite vraiment à le faire. Je vous embrasse, merci encore et bravo Eurial pour l'ensemble de son œuvre. Bravo la commu opostienne pour l'ensemble de sa fidélité, de sa sagacité, de ses critiques solidaires, de ses soutiens. Merci, bonne soirée.
Les amis, nous sommes sur opost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous, c'est opost.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous au poste. Adonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
des
l'argent
dons, abonnez-vous. Pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr. Au poste.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous au poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? faites un don à Au Poste. Faut pas que ce soit qui reste. Donc je disais, pardon, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Oh, bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.